Vous êtes sur Radio Grand Ciel pour le quart d'heure réservé aux petits. Je suis Isabelle et avec la complicité de Roland à la technique, je vous emmène dans la grande steppe russe, même si j'ai choisi comme musique d'illustration des danses sénégalaises, pour un conte intitulé « La trace inconnue ». Une petite fourmi, ayant trouvé une minuscule branche de genévrier, la traîne aussitôt dans sa fourmilière. Elle court de toute la vitesse de ses petites jambes. Le fardeau n'est pas lourd, et le chemin, plat comme un tapis, elle le connaît à merveille pour l'avoir suivi souvent et ce matin encore au moins une dizaine de fois. La petite fourmi court, elle souffle, elle se hâte, pan. La voilà qui culbute et laisse tomber son fardeau. La peur lui brouille la vue. Elle revient à elle et regarde. Une fosse, profonde et large, elle lève la tête. Oh oh, de quelle hauteur suis-je donc tombée? Qu'est-ce que cela signifie? D'où vient cette fosse qui n'existait pas tout à l'heure? Depuis tant d'années que nous habitons ces parages, jamais encore je n'ai aperçu rien de pareil ici. Et marchant sur le fond de la fosse, la fourmi en fait le tour, arrive avec quelque effort à en remonter la paroi, regarde en bas et réfléchit pendant que d'autres fourmis, ses camarades, passent à côté d'elle, les unes chargées de fardeaux, les autres avec les pattes libres. « Attention, camarade, la route est barrée. »« Quoi? Qui? Comment? Pourquoi ?» lui demande-t-on de tous côtés. Et toutes de courir au bord de la fosse et de se démener à qui mieux mieux. Bientôt, un scarabée moustachu vient se joindre à la compagnie. « Là, leur dit-il, un peu à droite de ce chardon, il y a une autre fosse, toute pareille. »« C'est loin ?» demandèrent les fourmis. « Comment dirais-je? Si je compte comme nous comptons, nous autres scarabées, cela fera un demi-kilomètre environ. Mais pour vous, fourmis, cela fera un bon kilomètre et demi, et si ce n'est plus. » Survient un grillon vert qui, sans crier gare, leur saute sur la tête. « Qu'est-ce que c'est que ce rassemblement ?» Les fourmis lui exposent l'affaire, et patati, et patata. « Quoi? Tant d'histoires pour une fosse ?» leur répond le grillon en retroussant ses moustaches. « J'en ai bien déjà sauté 4 ou 5. » Pour nous autres grillons, quelle importance voulez-vous qu'ait une fosse? Nous en sautons de bien plus large. Voyez par exemple ce tronc d'arbre couché. Il est large et haut, n'est-ce pas? Et hop, bonsoir la compagnie. Et le grillon disparut. Acrobate, va, murmurèrent les fourmis. Toi, cela t'est égal. La route n'est jamais barrée pour toi. Mais pour nous autres, portefeuille, c'est différent. Il n'y a rien d'amusant à faire un détour d'un demi-kilomètre, la charge sur le dos, pour une malencontreuse fosse. « Quel est le diable, je me le demande, qui l'a creusé ici ?» Mais voici la fourmi guerrière. À peine avait-elle eu le temps de gronder les ouvrières pour leur paresse, qu'elle aperçut elle-même la fosse, resta pensive, murmura entre ses dents. « Voilà une affaire !» Et envoya aussitôt une estafette avec ordre de sonner l'alarme, de faire venir dardard les troupes de la caserne. Il suffit que 2 ou 3 êtres se rassemblent pour qu'aussitôt de nombreux curieux surgissent de toutes parts. Les rayons dorés du soleil matinal avaient à peine avancé d'un mètre le long de la mousse que déjà beaucoup de badauds amassés autour de la fosse y culbutaient. Les petits furent suivis des grands. Ce fut d'abord une souris grise. Une grenouille verte y tomba comme un beignet, écrasa quelques insectes et s'échappa. Le hérisson arriva, roulant comme une balle. Les moineaux, eux, aussi, s'approchèrent. Un serpent gris à ventre orange frôla les feuilles sèches. Un putois se faufila aussi. Les oreilles pointues d'un renard aux écoutes se dressèrent derrière les chardons. Une bande de loups s'arrêta aussi à proximité. Elle envoya un éclaireur à la découverte. Cassant les jeunes arbustes, soufflant, grognant, claquant des mâchoires, un sanglier fonça. Un élan énorme apparut, recula de quelques pas et se contenta de pointer ses cornes menaçantes. Et déjà dans les branches des chênes, des pins, des sapins, s'agitait toute la gent ailée. Tous étaient là, jusqu'au grand-duc. « toutes les bêtes d'alentour se bousculaient à l'assemblée, se demandant l'une à l'autre de quoi il s'agissait, et personne n'était en état de répondre. À grand-peine réussit-on à voir un peu clair dans l'affaire, et encore fût-ce grâce aux lumières du renard. Celui-ci demanda un instant d'attention et exposa ses idées d'une façon logique, nette et précise. « Mesdames et messieurs, commença-t-il en s'éventant de sa queue et après avoir tout sauté dans sa patte pour éclaircir sa voix. « Il va sans dire que les fourmis ne sont que des insectes. « Comment dirais-je ? « Pas bêtes, oh non, mais enfin, elles ne sont que des insectes. « Et partant, des êtres infiniment petits. « Je dis petits en les comparant par exemple avec monsieur l'élan ou avec vous, monsieur le sanglier. « Ce sont des êtres, pour ainsi dire, microscopiques même... « Parlons peu, parlons bien. « Au fait, crièrent des voix impatientes. « Si j'ai parlé des fourmis, continua le renard, « c'est parce qu'en somme, ce sont les fourmis qui sont cause de toute cette alerte. « Une d'elles a trouvé une fosse sur son chemin. « Cela n'a rien d'important en soi. « Car qu'est-ce qu'une fosse, en définitive ? « Une bagatelle, une chose sans intérêt, « un fait qui ne présente aucun caractère inquiétant. « Et pourtant... Cette fosse, je parle de celle-ci, une des nombreuses fosses qui, à intervalles égaux, apparaissent sur une très grande distance, ainsi que peuvent le certifier des témoins oculaires. C'est vrai, appuyèrent des voix. Je continue donc. Eh bien, cette fosse que voici mérite une attention toute particulière. Voyez-vous-même. Faites place, messieurs. Écartez-vous un peu pour que tout le monde puisse voir. C'est cela, parfait. « Mais c'est tout bonnement une trace !» cria quelqu'un dans la foule. « Définition, tout à fait juste !» confirma le renard d'un ton doctoral. « Et c'est justement parce que c'est une trace que cette fosse mérite, comme je l'ai déjà dit, toute notre attention. « Une trace, dis-je, donc l'empreinte d'un pied, d'une jambe ou d'une patte. Il faut qu'il y ait eu un être à qui ils appartinssent. Quel est donc cet être? Comment est-il venu dans notre forêt ? De quel droit ? Et quels seront ses projets et ses actes ultérieurs ? Tout cela, il faut l'examiner, le peser, le vérifier, et d'après les déductions obtenues, des mesures préventives s'imposeront. Peut-être bien que certains d'entre nous devront se tenir sur leur garde, mais pour d'autres, ce sera peut-être au contraire une proie inattendue, remarquèrent les loups en faisant claquer leurs dents d'une manière significative. « Ne dites pas cela, leur répondit le renard en secouant la tête. Un ennemi inconnu est plus dangereux que deux connus. Restez donc plutôt sur la réserve. Mais à qui donc peut appartenir cette trace ? Grogna le sanglier en jetant un regard interrogateur sur l'élan. Celui qui l'a laissé n'est pas de notre race, répondit l'élan. Ceux de ma tribu et moi, nous avons les sabots tournés à la mode que voici. Mais donnez-vous plutôt la peine de voir vous-même. Tout le monde ne fut pas long à se convaincre que le sabot de l'élan ne pouvait guère entrer en ligne de compte. « Elle n'est pas à moi non plus, dit le sanglier, en mettant son pied à côté de la trace. Puis ce fut le tour du louveteau qui, plein de zèle, s'avança, lui aussi, imitant les grands. Il fourra sa petite patte dans la fosse et devint tout confus. Un rire unanime accueillit ce geste, tellement l'incompatibilité était évidente. Et à tour de rôle, les différentes bêtes se mirent à comparer leurs pieds et pattes avec la configuration de la trace. Celle-ci paraissait toujours grande, beaucoup trop longue, et si large qu'elle rappelait à s'y méprendre la trace laissée par une patte d'ours. « Bah, mais c'est une trace d'ours !» s'écrièrent tout à coup quelques malins. « un ours !» firent les moineaux en poussant leur « chut-chut-chut !» Où est donc en effet maître Martin ? Pourquoi ne le voit-on pas aujourd'hui ? Nous ne sommes pas en hiver, il ne doit pas dormir dans sa tanière. » La forêt alors retentit d'un grognement formidable. Des branches sèches craquèrent sous des pas pesants, et les âmes des bêtes timides leur rentrèrent dans les talons. Se dandinant et promenant sur l'assemblée un regard interrogateur, arriva ce lourdeau de maître Martin. « Qui a besoin de moi ici et à quel propos ?» « Voici, messire, insinua le renard, nous avons trouvé ici une trace inconnue, je veux dire, une trace qui ne paraît appartenir à aucune bête habitant cette forêt, et nous ne savons à qui précisément l'attribuer. »« À moi !» dit l'ours, coupant court au verbiage du renard. Mais c'est ma trace, en plein. Pourquoi donc ce rassemblement et cette alerte? Je suis un bon maître, moi. Il n'y en a pas beaucoup parmi vous qui pourraient se plaindre de mes procédés. « Hélas, elle n'est pas à vous !» objecta le renard, en baissant ses yeux avec modestie. « Comment, pas à moi » répéta-t-il encore. « Que messire daigne le regarder. Sa patte est pourvue de 5 merveilleuses griffes, tandis que cette trace, que messire veuille bien en convenir, n'en présente aucunement l'empreinte. On dirait que le pied a été coupé net à la naissance des griffes. « C'est vrai ?» acquiesça maître Martin. « c'est vrai !» confirmèrent les autres bêtes. Mais de quoi donc s'inquiéter et s'alarmer du moment que c'est vrai ? Pensa l'ours à haute voix. Moi j'ai des griffes, l'autre n'en a pas. Qu'il tombe seulement entre mes pattes, il lui en cuira. Pour sûr ! Y a-t-il donc quelqu'un de plus fort dans cette forêt que notre maître Martin ? Firent de nombreuses voix. Cela est encore à voir, grogna le sanglier d'un air mécontent. Moi aussi je suis doué d'une force peu commune, soupira l'élan. Mais Dame Nature ne m'a pas gratifié dedans, autrement. Et nous autres ? Hurlèrent les loups. Isolément, nous ne pouvons pas grand-chose. Mais lorsque nous sommes en troupe, personne ne saurait nous résister. Et les bêtes tranquillisées de crier avec assurance. Allons, mes enfants, tâchons de dépister cet hôte inconnu. Tâchons de le voir de nos propres yeux. Arrêtez ! Croassa dans les airs la voix d'un corbeau. N'y allez pas ! Avant tout, oyez ce que je vais vous dire, moi qui ai tant vécu et qui ai tant vu. Nous t'écoutons. Le corbeau descendit de la cime d'un chêne touffu sur une branche plus basse, où il n'était pas masqué par les feuilles, nettoya son bec et commença ainsi. Cette trace qui vous est inconnue et que vous n'avez jamais vue appartient à celui qui n'a ni les dents du loup, ni les griffes de l'ours, ni les défenses du sanglier, ni la force de l'élan, mais qui, malgré cela, est bien plus fort que vous tous, par la raison. Baissez donc le ton, vous tous ici présents, et rabattez de votre orgueil dès que cet inconnu apparaîtra. Voilà à qui appartient cette trace. Voilà celui que vous aurez dorénavant tous à saluer jusqu'à terre. Le corbeau n'eut pas plutôt fini son discours que les habitants de la forêt se mirent à crier, à hurler, à grogner, à rugir. « Mais comment ose-t-il ? Comment la langue ne lui a-t-elle pas fourché ? Essayez de nous effrayer par des contes saugrenus. Qu'on saisisse l'impudent, nous lui apprendrons à vivre. » Les loups entourent l'arbre sur lequel était perché le corbeau, bondissent furieusement essayant de l'atteindre. Le sanglier gronde méchamment, enfonce ses défenses dans la terre, s'efforce de déraciner cet arbre. L'ours rugit d'un air irrité, se dresse sur ses pattes de derrière et se met à grimper le long du tronc. Tout à coup, quelque chose brilla dans la forêt, on eût dit un éclair. Une fumée bleuâtre apparut dans le feuillage. L'air se remplit d'une odeur de soufre. Et tous les animaux tressaillirent. Tous se turent en entendant un coup de tonnerre inattendu. Ils restèrent pétrifiés. Le plus fort d'entre eux, maître Martin lui-même, tombait de l'arbre comme une masse et gisait inanimé. Un filet de sang jaillissait de son oreille pendante. Ses pattes puissantes, munies de griffes si terribles, demeuraient étendues sans mouvement sur la mousse ensanglantée. Et puis un autre éclair, suivi d'un autre coup de tonnerre, le sanglier poussa un cri, bondit comme mordu par un serpent et s'abattit à côté de l'ours. Tous les habitants de la forêt s'enfuirent. Terrifiés, en un clin d'œil, la clairière se vida. Et débouchant de la forêt touffue, apparut dans la clairière un homme. Heureusement, le corbeau a dit que cet animal, entre guillemets, plus fort que l'ours, plus fort que le sanglier, plus fort que tous les animaux, était doué de raison. Ça, l'histoire ne dit pas ce que devint ce chasseur. Moi, je remercie Roland à la technique et à vous, je dis au revoir et à bientôt.